Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire 2023 de Grisby. Voilà, on sort d'une année 2022 qui a été compliquée, qui a été chahutée notamment sur les marchés avec des baisses significatives, en particulier sur certaines valeurs, les valeurs de croissance, les valeurs technologiques. On a constaté un Nasdaq qui a perdu 33% sur l'année, un CAC 40 qui a perdu près de 10% aussi. Donc voilà, l'année, vous l'avez constaté, n'a pas été simple. Et vous êtes nombreux à essayer de savoir effectivement comment se positionner en 2023, quelle stratégie d'investissement adopter en 2023. On a la chance aujourd'hui d'avoir à nos côtés trois experts de maisons de gestion prestigieuses, partenaires de Grisby, justement pour nous éclairer par rapport à cette question. Je tiens à vous remercier tous les trois, Axel, Antoine et Louis-Charles. Et je vais d'ailleurs vous laisser la parole tout de suite pour vous présenter. Axel, si tu veux bien commencer.
Bien sûr. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année. Donc je suis Axel Pinon, membre du comité d'investissement de Carmignac. Alors, Carmignac, c'est une société entrepreneuriale qui a été fondée en 1989 par Édouard Carmignac et qui gère plus de 32 milliards d'actifs sous gestion. Et on a un seul métier qui est de gérer activement l'épargne de nos clients. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on est là aujourd'hui.
Parfait, merci Axel. Antoine?
Alors, merci Maxime. Alors, nous, on est beaucoup plus jeunes, puisque donc, je suis Antoine Dupinil, directeur du développement de Primonial REM France. Primonial REM, c'est une société qui a à peu près, on va dire, une dizaine d'années, 11 ans aujourd'hui, et on gère 34 milliards d'actifs immobiliers, principalement en immobilier de bureau, en immobilier de santé, avec un très fort prisme, évidemment, SCPI, SCI. Mais également, on gère à peu près 9 milliards d'euros pour le compte d'institutionnels, notamment français et européens.
Très bien. Merci Antoine. Louis-Charles.
Oui, bonjour Maxime, bonjour à toute l'équipe et à Grisby. Merci beaucoup de nous solliciter aujourd'hui. Je suis ravi de représenter JP Morgan Asset Management, qui est effectivement une maison de gestion assez ancienne, première banque américaine en termes de capitalisation. Mais surtout, on gère à peu près 2 600 milliards, ce qui permet de mobiliser environ 1 000 gérants, analystes ou stratégistes dans une trentaine de pays, ce qui permet d'avoir cette valeur ajoutée de pouvoir effectivement communiquer à nos différents investisseurs. On aime bien se présenter aussi, et ça nous rapproche peut-être de la plus française des banques américaines, puisqu'on est implanté en France depuis maintenant plus de 150 ans. Et donc voilà, on fait maintenant aussi partie de peut-être d'une partie de l'histoire de France.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Louis-Charles pour cette présentation. Donc vous le comprenez, nous on est très heureux de vous avoir à nos côtés pour avoir une vision claire évidemment, large autour des marchés financiers, de l'obligataire, de l'inflation. On va parler d'immobilier également, vous l'avez compris. Et s'appuyer sur votre expertise nous est précieux pour voilà, se positionner en ce début d'année par rapport à ce qui peut nous arriver dans les semaines et les mois à venir. Avant de se projeter sur 2023, quelques mots sur 2022 au niveau du cabinet Grisby déjà. Je vous le disais, on a rencontré une situation, une année compliquée, un contexte compliqué. On l'a tous subi, mais néanmoins, le cabinet a passé une très belle année, une belle croissance avec une collecte annuelle supérieure à 45 millions d'euros. Quelques faits marquants, on accompagne de plus en plus de personnes morales, de manière historique, évidemment beaucoup de personnes physiques, mais de plus en plus de personnes morales autour des gestions de trésorerie, de la mise en place de plans d'épargne entreprise. On propose à nos clients des allocations de plus en plus diversifiées, et ça vraiment, on en est très heureux, avec notamment des classes d'actifs nouvelles qu'on propose de plus en plus, en particulier en fin d'année 2022. Je pense au private equity, je pense notamment aussi à la thématique obligataire qui a ressurgi en cette fin d'année 2022. Et puis, on a une activité historique qui s'est maintenue et qui s'est encore développée, renforcée en 2022 autour de la réduction d'impôts à travers l'investissement dans la forêt, dans le Girardin, évidemment les plans d'épargne retraite et plein d'autres choses. Donc, on a une activité forte au cours de cette année et je tiens vraiment au nom de toute l'équipe Grisby à vous remercier, à remercier tous les clients de plus en plus nombreux du cabinet pour votre fidélité, pour les clients anciens, pour votre confiance, pour tous les clients et notamment les clients récents aussi. Voilà, et puis la dynamique de ce début d'année 2022 se poursuit et s'accélère. Donc c'est parfait de notre côté. Vous le savez certainement, je le rappelle pour peut-être ceux qui participent pour la première fois, vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenants. N'hésitez pas à rédiger des questions. Je ne suis pas sûr de pouvoir toutes les relayer parce qu'on a de manière traditionnelle beaucoup, beaucoup de questions et je vous en remercie par avance. Néanmoins, on en relayera certaines, on pourra répondre par écrit à d'autres. Mais merci en tout cas par avance pour votre participation et pour les questions que vous allez nous poser et poser à nos experts. Voilà, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet avec toi, Axel, si tu le veux bien, pour bien parler de l'année 2022 et des premières leçons qu'on peut tirer de cette année 2022.
Oui, comme tu l'as dit, Maxime, hein, l'année 2022, je pense qu'on s'en souviendra. Et on s'en souviendra surtout comme l'année du choc d'inflation. Parce que si on fait un petit récap, hein, de ce qui s'est passé, après plus d'une décennie où on a eu une inflation extrêmement faible, par exemple aux États-Unis, l'inflation sur les 10 dernières années, elle était en moyenne sous les 2%. Et ben l'année dernière, on a touché les 9% d'inflation. Alors il y a eu plusieurs raisons derrière ce phénomène. Une partie de ces pressions inflationnistes, elles ont démarré dès 2021 et elles sont liées à la réouverture des économies post-Covid qui a conduit à un rebond très fort de la demande sans que l'offre puisse suivre réellement. Mais ces pressions temporaires, elles ont été alimentées par ensuite des hausses de salaires. Et puis, c'est ajouté à tout ça un choc sur les matières premières, sur le gaz, sur le pétrole, sur l'alimentaire, avec la guerre en Ukraine. Donc, on a eu un vrai effet boule de neige, hein, sur l'inflation qui a pris les banques centrales de tous les pays du monde par surprise et donc qui les a conduits de manière très abrupte, très violente et coordonnée à resserrer leur politique monétaire en augmentant leur taux d'intérêt directeur. On a eu, en 2022, 280 hausses de taux à travers le monde. Et quand on pense à l'ampleur que ça a, bah voilà, sans surprise, il y a un impact catastrophique sur les actions, sur les obligations. Mais pour ça, je laisse Louis-Charles vous en parler un peu plus en détail.
Oui, effectivement, je partage tout à fait ce que vient d'être dit par Axel. C'est vrai qu'on est un peu passé peut-être d'un quoi qu'il en coûte un autre. On a eu pendant les années Covid, quoi qu'il en coûte, soutenir la croissance, soutenir l'économie et puis régler effectivement la crise sanitaire. 2022, c'était plutôt quoi qu'il en coûte, finalement, essayer de lutter contre cette inflation qu'on pensait tout à fait temporaire en début d'année 2022 et qui s'est avérée plus permanente que prévu. Et donc, le travail des différentes banques centrales, en tout cas des grandes banques centrales, banques centrales européennes et banques centrales américaines, a été celle d'un peu de... Comme on peut faire une métaphore du tube de dentifrice. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé une fois que le dentifrice est sorti du tube, de le faire rentrer à l'intérieur du tube. C'est très difficile et pour autant, ça a été tout le travail des différentes banques centrales en 2022. Il en a résulté effectivement des performances sur les grands marchés actions, des performances très négatives, quasiment moins 20% aux États-Unis, moins 12% en Europe. Pour une fois, peut-être, l'Europe s'en est mieux sorti que le marché américain qui est plus emmené par la croissance. À l'exception notable, peut-être effectivement, la Chine également a perdu plus de 20%, et les marchés obligataires ont été aussi en forte baisse. Une chose à souligner, c'est la forte corrélation des actions et des obligations qui sont, en tout cas ces dernières années, ces deux grandes classes d'actifs étaient assez décorrélées. Finalement, quand les actions performaient, les obligations performait moins et inversement. Et là, en 2022, on s'est retrouvé avec un portefeuille dit diversifié, si on prend 50% d'actions, 50% d'obligations, avec une performance de l'ordre de moins 13%, ce qui est la pire année depuis 1969. Et avant, c'était 1930. Donc vraiment, on retrouve c'est peut-être même à faire un peu désespérer des marchés financiers. Et c'est la raison pour laquelle c'est important peut-être de se replacer dans le temps long. Parce que même si on a eu une année 2022 très compliquée, si on regarde la performance cumulée sur 5 ans des actions américaines, c'est plus de 70% malgré l'année 2022 compliquée. Donc c'est vrai qu'il faut le savoir, les marchés financiers peuvent être haussiers et parfois c'est très bien, parfois c'est fortement baissier comme ça a été le cas l'année dernière. Une des conséquences qui est peut-être un peu plus enthousiasmante toutefois, c'est effectivement que les marchés, en tout cas en 31 au 1er janvier, étaient clairement bien moins chers. Et donc, ça constituait des points d'entrée sur certains segments dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est certain que ça permet de se repositionner également avec des points d'entrée intéressants.
Très bien, merci pour cet éclairage, ce premier éclairage. Donc on a bien compris que sur les marchés, l'année 2022 était une année loin d'être simple, et on a hâte de savoir ce que vous envisagez pour 2023. Avant cela, peut-être un éclairage sur justement la classe d'actifs qui intéresse tout le monde aussi, c'est l'immobilier. Antoine, si tu veux nous en dire quelques mots.
Alors oui, effectivement, Maxime, on n'a pas sur l'immobilier vécu exactement la même année que sur les marchés financiers, hein. Vous savez, l'investissement immobilier, c'est un investissement un peu plus pérenne, un peu plus long terme, peut-être moins élastique dans ses réactions face au choc de marché. On a vécu sur l'année 2022 finalement une année qui est assez, on va dire, assez traditionnelle en termes de rendement, notamment le rendement et la performance de la plupart de la pierre papier a finalement en 2022 était assez similaire à celle qu'on avait pu connaître en 2021, que ça soit en termes de rendement, mais même en termes de stabilisation des prix de part ou des valorisations. On n'a pas connu un choc extrêmement, extrêmement important. Alors ça ne préjuge pas de ce que je dirais plus tard, peut-être sur l'année 2023, mais en tout cas sur l'année 2022, on est resté quand même relativement stable. On a connu un certain engouement plus fort que les années précédentes sur la collecte des événements retail, hein, puisque sur les SCPI, sur les SCI notamment, ça a été une année de collecte extrêmement forte. Je crois qu'on parle souvent de la valeur refuge de l'immobilier, d'un certain bouclier contre l'inflation, ça s'est un peu galvaudé, mais c'est quand même des éléments qui, je pense, en termes d'investissement, ont beaucoup joué cette année. On sait que l'immobilier est une des rares classes d'actifs sur laquelle, ben, finalement, le revenu va être indexé sur l'inflation, peu ou prou, en tout cas sur des paniers d'indices qui sont quand même calqués sur l'inflation. Et ça a beaucoup joué en faveur de l'immobilier, en tout cas en termes de collecte sur 2022. Et on verra que plus tard, ça aura évidemment des impacts assez positifs en termes de performance. Donc ça, c'est vraiment pour le marché retail. Le marché institutionnel, lui, en revanche, il a été vraiment complètement atone. Parce que la plupart des institutionnels anticipent des mouvements de marché qui seront peut-être moins favorables sur l'immobilier. Et donc, dès le milieu de l'année 2022, ils ont stoppé tout investissement. Et le volume d'immobilier transacté au niveau européen, en tout cas, ça c'est nos marchés d'intervention, est extrêmement faible en 2022, et notamment sur la deuxième partie de l'année. Donc aujourd'hui, le marché est un petit peu frisé. Personne ne bouge, tout le monde attend un repricing qui viendra certainement l'année prochaine. Et donc ça a eu des conséquences et ça donne un certain nombre d'opportunités sur l'année prochaine.
Parfait, merci pour ce petit retour en arrière sur 2022 qui était très éclairant et important justement pour se projeter maintenant sur 2023. Quel scénario envisager pour 2023, notamment sur le volet financier? Louis-Charles, je te donne la parole.
Oui, effectivement. Axel l'a bien dit, il y a eu beaucoup de hausses des taux qui ont commencé en 2022, qui ne sont pas terminées. Et finalement, le travail des banques centrales n'est pas terminé, mais elles peuvent commencer à voir un peu les effets de leur travail. La trajectoire d'inflation commence effectivement à être endiguée aux États-Unis et même en Europe. Et c'est vraiment tout l'objectif, c'est le mandat principal des banques centrales, c'est vraiment d'endiguer l'inflation. Je rappelle que le mandat des banques centrales, de la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, c'est 2% d'inflation. On en est très loin, même si la pente commence à être descendante. On est à 8,5% en Europe, alors qu'on était au point haut à 10,5%. On l'oublie un petit peu. En France, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. En France, c'est un peu une anomalie au sein de l'Europe. On a, j'allais dire, que 7% d'inflation, même si pour le coup, elle est en légère hausse. On a eu la magie de transformer l'inflation aux dettes, donc ça c'est aussi peut-être un autre sujet. Mais effectivement, donc en Europe, on commence à voir cette inflation baisser. Elle a un peu plus fortement baissé aux États-Unis, de 9%, on est passé aujourd'hui autour de 6,5%. En Chine, c'est un autre sujet, puisqu'ils ont pour le coup d'autres problèmes, mais pas ou peu d'inflation. Ils ont moins de 2% d'inflation, donc ils sont largement dans leur mandat. Et donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il faut se faire de faux espoirs. Le travail des banques centrales n'est pas terminé, et les banques centrales, elles l'ont annoncé, elles vont continuer à monter leurs taux jusqu'à la récession, peut-être. On parlait beaucoup sur la fin du dernier trimestre de récession en Europe, aux États-Unis. Finalement, on peut laisser, enfin, les derniers chiffres laissent penser qu'on peut peut-être éviter la récession, peut-être de justesse, mais quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible que effectivement les banques centrales continuent à monter leurs taux jusqu'à potentiellement la récession.
Attends, je te coupe une seconde parce qu'effectivement, ouais. C'était une question qui nous a été posée là, il y a quelques instants. Peut-on dire s'il y aura ou non une récession? Tu viens d'évoquer.
Je viens effectivement d'évoquer le sujet. Si on arrive à éviter la récession, très bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la croissance sera très faible des deux côtés de l'Atlantique, et peut-être que la récession arrivera que plus tard, qu'elle sera tout à fait légère. En tout cas, on ne s'attend pas, pour répondre à une question très précisément, on ne s'attend absolument pas à un nouveau 2008, ce n'est absolument pas notre scénario central, mais c'est vrai qu'à court terme, on est plutôt prudent, mais il faut bien prendre conscience qu'aux États-Unis et en Europe, on n'est pas tout à fait dans la même configuration, malgré cette inflation très forte des deux côtés de l'Atlantique. Si on regarde par exemple aux États-Unis, on a une inflation qui est plutôt haute entretenue, avec finalement une forte pénurie d'emploi. Il y a 3,5% de chômage aux États-Unis, donc alors que le seuil du plein emploi est autour de 4%. Donc il y a beaucoup plus de postes ouverts que de personnes qui cherchent du travail. Tout ça, ça fait une pression à la hausse sur les salaires très importante, et donc ça fait une pression à la hausse sur la consommation, sur les prix. Et donc c'est une inflation plutôt la fameuse boucle prix-salaire dont on entend parfois parler. Alors qu'en Europe, l'inflation est de nature assez différente puisqu'elle est plutôt importée, avec une forte proportion de matières premières au sein de cette inflation. Donc je ne vais pas vous faire le coup de la bonne et de la mauvaise inflation, mais en tout cas, il faut bien prendre conscience que le travail des banquiers centraux n'est pas tout à fait le même aux États-Unis et en Europe. Mais c'est vrai que la clé sera sans doute l'emploi et donc le marché du travail si on regarde les États-Unis. Néanmoins, donc on a commencé cette année de manière assez prudente. Et pour autant, on a eu une forte hausse des marchés financiers au mois de janvier. Si on regarde ne serait-ce que le CAC 40, c'est 10% de performance. L'Europe en général, 7% de performance sur le marché actions. Ce qui nous invite peut-être encore plus à la prudence en ce début d'année, ou en tout cas sur le premier semestre. Et après, je serai un petit peu plus optimiste, vous inquiétez pas. Mais effectivement, on va préférer des stratégies dites non directionnelles, donc éviter de prendre trop de risques marché, en tout cas à court moyen terme, donc sans doute le premier semestre, pour justement éviter de prendre trop de risques sur le marché. Donc des stratégies non directionnelles, ça peut être des long shorts, donc acheter les valeurs qu'on aime et vendre les valeurs dont on pense qu'elles ont moins de perspectives, et donc ça évite de prendre trop de risques marché. Donc ça, c'est sur le premier semestre, mais néanmoins, et on en reparlera, à moyen et évidemment à long terme, on a de nombreuses propositions d'investissement, mais quoi qu'il en soit, peut-être le conseil sur 2023, mais qui était déjà d'ailleurs le conseil sur 2022 et qui restera le conseil sur 2024, c'est surtout penser à diversifier vos allocations. On a une appétence pour les marchés, le marché français, les marchés européens, et c'est très bien. Il y a une appétence également pour l'immobilier en France, et c'est pareil, c'est une très bonne chose. Mais voilà, il faut faire attention à bien diversifier ses allocations. On parlera tout à l'heure de marché émergent. C'est sans doute dommage de ne pas être investi sur les marchés émergents ou même sur les États-Unis qui tirent malgré tout la croissance mondiale. Donc c'est voilà, pensez à bien diversifier les allocations pour 2023. Et puis en termes de scénario, je ne sais pas si Axel, cette relative prudence qu'on a côté JP Morgan Asset Management, est-ce que chez Carmignac c'est effectivement aussi une prudence que vous avez, ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, c'est exactement un ton de prudence qu'on a aussi au niveau macroéconomique, du moins. On partage la vue chez Carmignac de JP Morgan sur l'inflation. Enfin, on est en désinflation. C'est un soulagement pour nous, investisseurs, pour le consommateur, pour les banques centrales. Mais malheureusement, Louis-Charles a parlé des salaires. Il y a plusieurs autres facteurs structurels, démographiques, liés aux investissements du changement climatique, qui vont continuer à nourrir l'inflation sur les prochaines années, et qui nous font croire que se débarrasser de ce surplus d'inflation va être plus difficile que ce que les marchés l'anticipent peut-être aujourd'hui. Et la mauvaise nouvelle, c'est quand on dit moins d'inflation, ça va souvent avec moins de croissance. Ce qu'on voit pour 2023, c'est vraiment qu'on va avoir un moteur de la croissance mondiale qui va passer du bloc atlantique, donc les États-Unis et l'Europe, vers la Chine, donc une configuration complètement inverse à 2022. Et si on regarde zone par zone, Louis-Charles l'a mentionné, aux États-Unis, on a des perspectives de récession qui ont été repoussées. Nous, on voit quand même une récession à fin d'année aux États-Unis. Alors, ces perspectives de récession, elles ont été repoussées parce qu'on a un consommateur américain qui est en très bonne santé, qui ne s'arrête pas de consommer, notamment avec grâce à un excès d'épargne très important après les années Covid. Mais ce consommateur qui ne s'arrête pas de consommer continue d'alimenter l'inflation, et ce qui pourrait nécessiter à un moment la Fed de finalement devoir provoquer une récession pour pouvoir contenir cette inflation. Donc c'est un risque qu'on garde bien en tête pour potentiellement une récession d'ici fin d'année. En Europe, par contre, le scénario du pire semble un peu être évité. On va avoir une récession technique, notamment en Allemagne, là, en ce moment. Mais le pire est évité parce qu'on a un environnement externe qui est quand même beaucoup plus favorable, notamment avec la réouverture de la Chine. Et on le sait, l'Europe est très liée à la Chine. On a une situation sur le front du gaz qui, elle aussi, est meilleure. On n'aura pas de rationnement d'énergie pour cet hiver. Et il est peu probable qu'on en ait pour l'hiver prochain. Et on a eu des politiques budgétaires extrêmement accommodantes dans beaucoup de pays européens. En France, par exemple, on a eu le blocage des prix de l'essence, qui ont permis à l'inflation de baisser, mais aussi à la croissance d'être soutenue. Donc, meilleur scénario qu'anticipé initialement en Europe, mais bon, on a toujours cette inflation, on a toujours cette poursuite d'une politique monétaire restrictive qui va limiter un rebond significatif de la croissance européenne. Et dans cet environnement un peu morose, on a la Chine, qui est le vrai moteur de la croissance mondiale. On va avoir un consommateur chinois qui va dépenser les milliards de yuan qu'il a mis de côté pendant 3 ans. L'épargne des Chinois est quand même égale aujourd'hui au PIB de la France. Donc, vous pouvez imaginer le potentiel que ça a en termes de dépenses. Et ça va vraiment alimenter la croissance chinoise et la croissance mondiale, d'où l'intérêt d'aller chercher la croissance là où elle est pour 2023, en Chine, mais potentiellement aussi peut-être en Europe. Donc, rapidement, en termes d'investissement, hein, comment ça se traduit? Comme JP Morgan, sur les actions, on va rester extrêmement sélectif, extrêmement actif. Le rebond actuel, il reflète un peu un état d'esprit de conte de fées, hein, dans lesquels on aurait un retour à la cible dans l'inflation sans choc majeur sur la croissance. La réalité nous paraît plus périlleuse, donc par conséquent, comme je disais, on va chercher la croissance là où elle est, notamment avec les bénéficiaires directs et indirects de la réouverture chinoise. Et avec une inflation qui va rester persistante, on va faire très attention aux valorisations des entreprises, on va éviter toutes les valorisations un peu élevées. Et comme l'a très bien dit Louis-Charles, sélectivité, diversification sectorielle, géographique et gestion extrêmement active. Il va plus s'agir de garder en portefeuille un indice Nasdaq en ayant l'esprit tranquille pendant des années. L'environnement a sûrement changé. Par contre, notre très forte conviction pour 2023 se retrouve sur le marché obligataire. Le marché obligataire, pour rappel, hein, c'est le marché de la dette émise par les États et les entreprises. Et pendant des années, c'est une classe d'actifs qui avait un peu perdu sa raison d'être au sein des portefeuilles. Parce qu'il y a 2 ans, on comptait pas moins dans le monde de 18 milliards de dollars d'obligations qui affichaient un rendement négatif. D'ailleurs, en France, hein, en 2019, le taux à 10 ans de l'État français était à moins 0,40, ce qui veut dire qu'on payer l'État français pour lui prêter de l'argent. C'était devenu un peu ubuesque. Mais le krach obligataire qu'on a eu l'an dernier, il a concerné la dette publique, la dette privée, et il a permis de redonner de l'attractivité à l'ensemble de la classe d'actifs. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'au Japon qu'on trouve des obligations encore à rendement négatif. Mais si je reprends l'exemple de mon obligation d'État française à 10 ans, on est passé d'un taux négatif à un taux de 2,7%. Donc clairement, on voit dans les marchés obligataires redevenir une opportunité attractive pour les investisseurs avec un risque qui reste quand même plus limité que sur les actions.
Parfait. Merci beaucoup Axel et Louis-Charles pour cet éclairage sur vos scénarios de 2023 envisagés. Qu'en est-il du scénario sur l'immobilier, Antoine ?
Alors oui, effectivement, je pense que je partage un peu la prudence de mes camarades. 2023 et la fin de l'année 2022, c'est l'année pour l'immobilier des grands changements de paradigme. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que finalement les fondamentaux de l'immobilier étaient vraiment drivés par une politique de taux bas, hein, qui faisait que la valorisation de nos actifs s'appréciait de façon assez régulière au fur et à mesure que les taux de rendement attendus se compressaient. Et ça, même si tout le monde était bien préparé au fait que ça allait devoir changer, ça a été fait de façon assez brutale. Alors heureusement pour l'immobilier, finalement, ça se fait de façon corrélative avec la hausse de l'inflation. Et on en parlait tout à l'heure, on disait que effectivement, selon les classes d'actifs, on est en capacité de traduire cette inflation dans la hausse des revenus. Alors, c'est surtout le cas dans l'immobilier de bureau, dans l'immobilier tertiaire comme la santé, l'hôtellerie. C'est un petit peu moins le cas sur l'immobilier résidentiel, l'immobilier de commerce qui, en France, voit ses indexations qui sont capées. Enfin, en tout cas, de façon imparfaite, on est en mesure aujourd'hui de retranscrire cette inflation. Ce qui va être clé l'année prochaine, sur 2023 et dans les prochaines années, c'est notre capacité à travailler avec les locataires et à travailler avec les bons locataires pour être en capacité d'augmenter les loyers. Parce qu'on peut augmenter les loyers à partir du moment où on a des locataires qui payent et à partir du moment où on a des locataires qui sont en mesure de le faire. Donc ça, c'est toute la problématique qu'il va falloir qu'on continue à travailler l'année prochaine. Après, il ne faut effectivement pas être naïf, je voyais un certain nombre de questions. Il est évident que la baisse des rendements, enfin que la hausse des rendements attendus va avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers. Là où aujourd'hui, enfin là où en 2019-2021, on attendait un rendement de l'immobilier très prime parisien, donc le bureau Paris, quartier central des affaires haussmannien, la banque Lazare par exemple, au coin, bah le rendement attendu c'était aux alentours de 3%. Évidemment, aujourd'hui, ces 3%, s'ils sont inférieurs au taux du livret A, on voit bien qu'il y a un petit souci. Aujourd'hui, ce même actif, il s'échangerait probablement avec des taux de rendement qui seraient de l'ordre de 3,50, 3,75. Donc, on voit bien qu'on a un écart de façon mécanique de l'ordre de 10 à 20% sur la valorisation des actifs, toutes choses étant égales par ailleurs. Et on reviendra un peu après sur le fait que la classe d'actifs immobiliers, ce n'est pas une seule et même classe d'actifs qu'il va falloir regarder un petit peu précisément comment chacune de ces sous-catégories va fonctionner. Et nous, on est absolument persuadés qu'un certain nombre de classes d'actifs, notamment les classes d'actifs les plus acycliques, c'est-à-dire celles qui sont le moins corrélées au reste de l'économie, comme peuvent l'être le résidentiel ou l'immobilier de santé, et même d'une certaine façon le bureau très qualitatif, continueront à tirer leur épingle du jeu. Alors, peut-être avec un petit peu de soubresaut, c'est-à-dire que ça va être moins un long fleuve tranquille sur les années qui viennent. Mais encore une fois, l'investissement en immobilier, c'est un investissement long terme avec des perspectives de croissance en termes de rendement qui restent complètement en ligne avec les perspectives de l'ordre de 4, 5, 6 %. C'est à peu près ce qu'on peut attendre de l'immobilier dans les années qui viennent.
Merci Antoine. Effectivement, on a eu plusieurs, tu l'as évoqué, plusieurs questions sur l'immobilier. Quelqu'un qui justement posait la question dans un contexte de hausse des taux et d'explosion des prix des matériaux. Comment se positionner par rapport à cette classe d'actifs? Je pense que tu y as répondu, sauf si tu veux apporter un complément. Et puis il y a une autre question qui concerne l'immobilier de bureau. Tu l'évoquais rapidement aussi, notamment sur l'immobilier de bureau qualitatif. Là, une question plus précise sur que pensez-vous de l'immobilier de bureau en première couronne de région parisienne, notamment dans les secteurs à proximité du Grand Paris, si tu veux en dire quelques mots.
Ouais, c'est assez précis. Mais alors, effectivement, l'immobilier de bureau, c'est probablement la typologie d'immobilier qui a été le plus challengée par la crise. D'abord par le Covid, avec la hausse de l'usage du télétravail, et ensuite par une accélération de ce changement d'usage de l'immobilier de bureau. Aujourd'hui, on ne consomme pas l'immobilier de bureau comme on le consommait il y a une dizaine d'années. Les demandes des locataires se font beaucoup plus précises et la demande d'immobilier a véritablement changé, donc il faut s'adapter. Une partie de la réponse, c'est de dire non, l'immobilier de bureau n'est pas mort. Au contraire, je pense qu'une typologie de bureau, donc très flexible, très bien localisée, va continuer à tirer son épingle du jeu. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui de façon assez régulière des prises à bail de locataires de renom à plus de 1 000 euros du mètre dans Paris. Avant, on en voyait une ou deux par an, c'était en général les cabinets d'avocats, quelques banques d'affaires. Aujourd'hui, on en voit quasiment une par mois parce que les sociétés sont prêtes à payer plus cher pour des surfaces plus petites, mais mieux localisées. Alors, ça reboucle avec l'autre partie de la question. Le Grand Paris, c'est d'abord et surtout une problématique résidentielle. L'idée étant de relier les banlieues entre elles et de permettre aux gens qui habitent dans des banlieues peut-être un petit peu plus éloignées de pouvoir venir travailler dans d'autres banlieues ou dans Paris de façon plus rationnelle. Selon nous, le Grand Paris n'est pas une problématique de bureau ou de façon très marginale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plutôt avoir tendance à se recentraliser sur des localisations comme Paris, comme la Première Couronne, première couronne ouest, plutôt que d'aller beaucoup plus loin. Si un jour le RER arrive jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, on verra assez peu probablement des entreprises se relocaliser à Saint-Quentin-en-Yvelines, on verra plutôt l'inverse. Après, ceci dit, des grands nœuds de transport, et je pense qu'en fonction des gares du Grand Paris, certains grands nœuds de transport verront un éco-quartier, en tout cas une attractivité en termes de bureaux. Mais encore une fois, c'est vraiment le Grand Paris, c'est vraiment une problématique résidentielle plutôt qu'une problématique de bureaux.
Merci, merci Antoine pour cet éclairage. Il y a d'autres questions qui concernent les CPI. Je vous remercie déjà pour toutes vos questions. N'hésitez pas à poursuivre. On aura un temps de questions-réponses à l'issue de l'intervention de nos trois experts. Tu nous as parlé donc des convictions sur 2023 autour des thématiques de la santé et du résidentiel. Axel, sur la partie marché financier, est-ce que tu peux nous partager effectivement les convictions de Carmignac et puis les actifs qu'il faut regarder de près, voire privilégier pour les semaines et les mois à venir?
Bien sûr. Alors, notre première conviction, c'est les émergents. Hein. On en a parlé, vous l'avez entendu, on est très positif sur la Chine dans le contexte ce qu'on a décrit. Et je crois que d'ailleurs, c'est une conviction qui est partagée avec JP Morgan. Mais qui dit Chine dit sélectivité extrême. Donc, on se concentre uniquement sur des entreprises domestiques et exposées à ce qu'on appelle la nouvelle économie. Donc, ça va être vraiment tout ce qui est lié à l'innovation dans la technologie, la santé, la transition écologique ou la consommation. Et on va favoriser des entreprises de qualité en ayant une attention particulière à tout ce qui est gouvernance. Donc, par exemple, on va éviter tout ce qui est entreprise tenue par l'État chinois. Et on va être extrêmement actif en termes de taille de position, en termes de construction de portefeuille pour gérer un peu cette volatilité folle des marchés chinois. Mais au-delà de la Chine, l'univers émergent regroupe de beaucoup d'opportunités attractives. On a par exemple le Brésil qui bénéficie d'un cycle de matières premières qui est extrêmement positif. Toujours en Amérique latine, on a le Mexique qui bénéficie, lui, d'un autre phénomène qui est celui de la rapatriation de la production plus proche des États-Unis. Les États-Unis veulent arrêter de produire au maximum en Chine. Tout le monde veut produire plus proche de chez soi pour sécuriser les lignes de production. Et le Mexique est le grand gagnant de ce phénomène. Mais au-delà de l'Amérique latine, il y a aussi la Corée qui offre des opportunités intéressantes. C'est un marché qui a perdu 25% l'année dernière parce que la Corée est une économie très cyclique, donc très sensible à tous les mouvements qu'on peut avoir. Mais c'est pourtant un pays qui regroupe des entreprises très intéressantes, très de qualité, très innovantes, notamment dans tout ce qui est technologie. Et donc, ça, pour nous, ça constitue une opportunité très intéressante. Donc, bien évidemment, la Chine, mais pas que. On diversifie au sein du bloc émergent qui bénéficie de beaucoup de tendances très attractives et c'est exactement ce qu'on retrouve par exemple dans notre fonds Carmignac émergent. Notre deuxième grande conviction, c'est l'Europe. Pour nous, la surperformance de l'Europe devrait se poursuivre en 2023. On l'a attendu hein, pendant des années, on l'a eu un peu l'année dernière et on s'attend à ce qu'elle se poursuive. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles positives que j'ai mentionnées un petit peu tout à l'heure qui conduisent à un moindre risque qu'initialement attendu sur les profits des entreprises. Et d'ailleurs, les analystes, l'année dernière, ils font toujours leurs prévisions un an à l'avance, c'était déjà très négatif sur l'Europe. Donc, on voit plutôt sur les bénéfices des entreprises des anticipations revues à la hausse par les analystes plutôt que revues à la baisse et donc un moindre risque de déception. Puis l'Europe bénéficie de l'exposition à la Chine. Les entreprises européennes génèrent à peu près 8% de leur chiffre d'affaires en Chine, contre seulement 4% pour les États-Unis. Donc, on voit vraiment ça comme un point fort pour l'Europe. Et puis, enfin, on a des valorisations qui sont attractives, notamment vis-à-vis des États-Unis. Et dans un contexte où les taux d'intérêt vont rester à un niveau élevé, on pense qu'avoir des valorisations attractives, c'est vraiment un plus. Donc, en Europe, concrètement, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a eu une question, je crois, sur le secteur du luxe. C'est clairement quelque chose qu'on favorise dans nos portefeuilles parce que le luxe, c'est un bénéficiaire direct de la réouverture de la Chine. Mais c'est aussi un secteur qui reste quand même à l'abri des craintes de récession et de ralentissement dont on a parlé au début. Les marques de luxe, hein, la plupart d'entre elles font leurs ventes sur seulement 20% de leur clientèle. Et ces 20%-là, c'est les très riches et les ultra riches. Et en plus, ces entreprises du luxe, elles bénéficient d'un avantage énorme de pouvoir de fixation des prix qui fait qu'elles sont capables de protéger leurs marges dans un contexte où la hausse des coûts va quand même continuer, notamment des coûts salariaux. Et donc, cette capacité à protéger ses marges est importante. Mais au-delà de l'Europe et des émergents, on a une troisième conviction qui est celui de la dette d'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, le marché obligataire a connu la pire performance de son histoire l'année dernière. Et après les mouvements qu'on a eus l'an dernier, on trouve qu'aujourd'hui, le marché obligataire, et en particulier celui de la dette d'entreprise, il reflète déjà un scénario qui est très noir, aussi bien sur le front de la croissance que sur le front de l'inflation. Et donc, par conséquent, l'investisseur sur le marché du crédit, donc de la dette d'entreprise, est aujourd'hui plutôt bien rémunéré par rapport au risque pris. Et si je prends un exemple tout simple d'une entreprise comme Coca-Cola, aujourd'hui, quand on détient l'action Coca-Cola, on a un rendement qui est obtenu à travers le dividende de 2,9% par an. Cependant, on le sait tous, avec une action, le dividende il peut être suspendu à tout moment et on peut voir le prix de l'action chuter si l'entreprise fait des résultats un petit peu moins bons qu'attendus, ce qui est un risque réel pour 2023. Mais si on détient l'obligation Coca-Cola, on est certain de toucher 4% par an, à moins que l'entreprise fasse défaut. Là, j'ai pris une obligation 2024, donc la probabilité que Coca-Cola fasse défaut d'ici 2024 est quand même assez faible. Et donc, on voit que quand on détient l'obligation Coca-Cola, on est bien mieux rémunéré pour le risque pris que pour l'action. Et ce n'est pas seulement vrai pour Coca-Cola, c'est vrai pour l'ensemble du marché. Depuis 2000, on n'a jamais vu autant d'entreprises dont le rendement du dividende dont le rendement de l'obligation est supérieur à celui du dividende. C'est quasiment 100% des entreprises américaines qui sont dans cette configuration-là. Donc, nos gérants chez Carmignac voient vraiment émerger beaucoup d'opportunités dans le marché du crédit, ce qui va permettre de recharger les moteurs de performance à long terme dans nos fonds et qui va permettre d'offrir des opportunités pour nos clients.
Merci Axel. J'en profite pour te relayer une question qui nous a été posée il y a quelques instants. Que pensez-vous des fonds à échéance, autrement dit, comment profiter des obligations 2023 et quel rendement espérer? Si tu peux nous en dire un mot.
Bien évidemment, oui. On en a vu fleurir chez beaucoup de gérants d'actifs parce que justement, c'est le contexte exceptionnel dont je parlais. On est capable, avec un fonds à échéance, d'offrir un rendement qui était encore inespéré il y a quelques années à nos clients. Et nous, on en avait lancé un avec une échéance 2025.
Excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que tu peux expliquer en deux mots ce que signifie un fonds échéance? Parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde.
Bien évidemment. C'est un fonds donc investi dans la dette d'entreprise qui a une date d'échéance. Alors, ça dépend des gérants d'actifs. C'est entre 3 ans et 5 ans environ. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va faire une stratégie qu'on va appeler de portage. Donc, on va acheter les obligations et on va les garder dans notre portefeuille jusqu'à l'échéance. Ce qui veut dire que, en fait, on ne prend pas de risque sur le prix de l'obligation. Ce qu'on fait, c'est le seul risque qu'on prend, c'est si une des entreprises de notre portefeuille s'avère faire défaut. Mais par contre, tous les ans, on va toucher le coupon émis par ces obligations, même tous les mois, ce qui va permettre d'assurer un rendement à nos clients et aux clients de ce type de fonds qui est connu à l'avance. Donc, c'est une solution qui permet d'avoir une visibilité sur le marché du crédit tout en offrant un rendement attractif. Et donc voilà, nous on en avait lancé un à échéance 2025 à la suite du Covid parce qu'on avait vu une première correction dans le marché du crédit et on en a lancé un à échéance 2027 qui est capable d'offrir un rendement bien supérieur que ce qu'on a pu offrir même avec 2025 grâce au contexte actuel très porteur pour la dette d'entreprise.
Parfait, merci Axel. Je me permets de préciser que le fonds Carmignac Crédit 2027 se démarque aussi de d'autres fonds. Il y avait effectivement un certain nombre de fonds échéance qui sont sortis récemment, sur lesquels j'en ai parlé en introduction. On collecte chez Grisby comme ailleurs, hein, parce qu'effectivement, il y a de l'attrait, il y a de l'intérêt pour ces fonds et on peut le comprendre. Et en tout cas, le fonds de Carmignac se démarque notamment par le fait que le terrain de jeu est global, ce qui est pas le cas forcément de tous les fonds échéance qui sont aujourd'hui accessibles en assurance vie ou en contrat de capitalisation. Tu nous as parlé de plein de choses intéressantes, Axel. Tu nous as parlé notamment des émergents et en particulier de la Chine. J'aimerais bien avoir l'avis de Louis-Charles sur la Chine. Je sais qu'il a plein d'autres choses à nous raconter, mais je crois qu'on va commencer par la Chine.
Effectivement, merci Maxime. Et c'est vrai que vous avez peut-être pensé qu'on est tous devenus chinois chez Carmignac ou chez JP Morgan Asset Management. Mais c'est vrai que la Chine est aussi une conviction qui est forte. Donc, je vais vous parler un peu de Chine et puis de deux autres convictions, en l'occurrence le secteur des technologies aux États-Unis et puis le secteur plus large, mais avec un biais américain, le secteur de la santé. Et c'est vrai que si je commence par la Chine, c'est vrai que c'est, C'est important, on a plusieurs éléments à raconter sur la Chine. Gardez peut-être en tête que l'Asie, au sens large, l'Asie, c'est 60% de la population mondiale. La Chine et l'Inde réunies, c'est 40% de la population mondiale. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut investir en fonction de la taille des populations, mais c'est vrai qu'il faut en prendre conscience. Le monde se tourne vers l'Est, et donc c'est peut-être important que ça retransparaisse dans vos portefeuilles, dans votre épargne. Et si on regarde la part de la Chine dans le PIB mondial, elle est passée de 2% au début des années 90, aujourd'hui à 15%. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de compétition entre la Chine et les États-Unis, et c'est fort probable que demain, est-ce que c'est 2030, 2035, que sais-je, mais en tout cas, la Chine devrait être prochainement la première économie mondiale. Et donc, c'est important, effectivement, de regarder ça. La Chine a on parlait tout à l'heure de valorisation, est historiquement peu chère. Pourquoi ? Parce qu'on sort de deux années très compliquées, effectivement, pour la croissance chinoise. Les dirigeants chinois ont annoncé des croissances importantes, en ligne plus ou moins avec ce qu'elles avaient les dernières années. Et finalement, la Chine a largement déçu ces deux dernières années, principalement en raison du Covid. Et plus que la raison du Covid, c'est plutôt la réponse du gouvernement chinois à ce Covid avec des confinements massifs qui ont effectivement fortement pénalisé la croissance. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un marché qui est historiquement peu cher. Si on compare parfois la Chine et l'Inde. On aime aussi l'Inde pour d'autres raisons, mais c'est vrai qu'on va préférer la Chine qui est clairement bien moins chère et donc à regarder de près. Le grand concept de la Chine, c'est la prospérité commune. L'idée étant de dire qu'il y a eu beaucoup de milliardaires en Chine et maintenant le gouvernement chinois veut que cette richesse profite au plus grand nombre. La Chine, selon les critères de l'OCDE, a quasiment réussi à faire disparaître la pauvreté. Il y a d'autres risques. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est rose en Chine, loin de là. Mais effectivement, ce concept de prospérité commune fait qu'on va avoir une émergence d'une classe moyenne qui est considérable, à peu près 350 à 400 millions de Chinois qui vont accéder à la classe moyenne d'ici 2030. Et ça fait une création de richesse. En comparaison, c'est une création de richesse pure de l'ordre du PIB français et allemand réunis. Donc c'est une création de richesse qui est très importante. Et donc c'est vrai que nous, on a, vous l'avez compris, une conviction qui est forte sur la Chine en général, mais peut-être en particulier sur le marché chinois, qui est vraiment un peu comme Carmignac, le marché vraiment domestique. On est présent en Chine depuis longtemps, on a accès à cette typologie d'actions sur le marché chinois, et on pense que les Chinois épargnent beaucoup, on l'a dit, ils épargnent beaucoup dans l'immobilier, mais le gouvernement souhaite que désormais, ils investissent beaucoup plus dans leur croissance et dans leur marché financier. Et finalement, il ne faut pas se leurrer, les Chinois ne vont pas investir sur le CAC 40, ils vont investir sur leur marché domestique, et donc c'est le marché chinois. Et donc, si on est investi aux côtés des Chinois sur le marché chinois, on peut effectivement espérer des performances significatives dans les prochaines années. Donc on a beaucoup, et peut-être trop, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on a un enthousiasme important sur la Chine. On a également un enthousiasme important sur la technologie américaine, qui est peut-être le secteur qui a le plus contre-performé en 2022, puisque le marché a perdu globalement 30%. C'est vrai que les hausses des taux dont on a parlé a fortement pénalisé le secteur de la croissance, la typologie d'action plutôt croissance. Et s'il y a un secteur qui est croissance, s'il en est, c'est bien les technologies américaines. Il faut bien prendre conscience que c'est un méga secteur, puisque c'est globalement, les technologies, c'est 25% du marché action aux États-Unis. Donc, on retrouve des valorisations qui sont un peu plus raisonnables qu'elles ont pu l'être. Donc, on parlait plus de tech américaine ces dernières années, parce qu'on retrouvait des valorisations qui étaient stratosphériques. Là, les tech américaines ne sont pas chères, elles sont même un peu au-dessus des moyennes historiques, mais on peut s'attendre à ce que si en 2023, effectivement, on va arriver à peut-être dans le courant du printemps, à un arrêt des hausses de taux. Donc, on pense que la croissance va être finalement moins pénalisée. Et c'est un secteur qui est lisible parce qu'il a des marges importantes. Il y a des marges, les entreprises ont en moyenne 25% de marge et surtout ce qu'on appelle un pricing power en très bon français, j'en suis désolé, une capacité des entreprises à fixer leurs prix et qui est important. C'est certain qu'elles ont cette capacité de fixer leurs prix et donc à maintenir justement ces marges dans un environnement compliqué. On essaye d'investir un petit peu sur toute la courbe de la technologie américaine, un marché peut-être un peu plus mature comme les tablettes ou les smartphones et d'autres beaucoup plus en phase de début. On a parlé de ChatGPT ces dernières semaines qui effectivement offrent des potentialités importantes. On peut penser aussi aux voitures autonomes donc qui sont plutôt au début du stade de développement, mais on essaie d'investir effectivement sur toute cette courbe des technologies américaines. Le dernier segment qui nous semble intéressant à regarder après la Chine et donc les technologies américaines, c'est le secteur de la santé qui partage avec les technologies, avec le secteur des technologies, une forte innovation. La santé innove énormément et c'est également un peu un méga secteur avec plutôt 4 sous-segments classiques que sont les biotech, les pharma, les technologies médicales et ce qu'on appelle les services de santé. Donc il y a 2 sous-segments un peu, j'allais dire, défensifs. Les pharma et les services de santé, et 2 plus croissance avec les technologies médicales et les biotech. Les leviers un peu classiques qui peuvent porter justement ce secteur de la santé sont classiquement le vieillissement des populations. On parle beaucoup ces derniers temps de démographie, enfin notamment en France avec les retraites. On parle de démographie, on parle de vieillissement des populations. C'est vrai que le monde vieillit, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Europe, mais c'est également le cas justement de la Chine ou de marchés émergents. Et donc finalement, c'est triste hein, finalement, mais le secteur de la santé en bénéficie. Pourquoi ? Eh ben parce que quand on vieillit, eh ben on est plus consommateur de segments de la santé et donc c'est porteur pour effectivement ce secteur. D'autres leviers, donc le vieillissement des populations, également les fusions acquisitions. On a des boîtes notamment des industries pharmaceutiques qui ont pas mal de cash et qui ont la possibilité d'acheter notamment des plus petites biotech, donc de désintégrer. Et ce qui effectivement est assez porteur. Donc voilà, on a beaucoup parlé ces dernières années de virus, de vaccins. On a l'impression qu'on est tous devenus un petit peu virologues. Et ben, ça peut se ressentir aussi dans les portefeuilles, dans nos portefeuilles, et d'investir sur ce segment porteur qui est celui de la santé. Voilà pour nos 3 convictions Chine, technologie américaine et santé.
Très clair, merci beaucoup Louis-Charles. Alors j'ai quelques petites questions à vous relayer. On a eu plusieurs questions en lien avec les émergents. Donc vous avez tous les deux parlé de la Chine avec beaucoup de conviction. On a eu plusieurs questions sur l'Inde. Donc certains s'étonnent de ne pas entendre trop parler d'Inde. La Chine est incontournable. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot sur l'Inde.
Si, bien sûr, parce que nous, pendant... structurellement, on a toujours eu une grosse conviction sur l'Inde. Il y a des entreprises qu'on aime énormément, que ce soit dans le secteur de la banque privée ou dans la consommation, parce qu'on a une forte sous-pénétration dans la consommation. Il y a des fondamentaux qui s'améliorent en Inde. On a un gouvernement qui est stable, on a une politique monétaire qui est performante. Mais on a 2 gros problèmes qui justifient qu'aujourd'hui, on a une exposition un petit peu prudente à l'Inde. Le premier, c'est le déficit de la balance courante et notamment le fait que l'Inde est un gros importateur de matières premières et dans un contexte où les matières premières restent sous pression, c'est vraiment un point faible pour l'Inde. Et le deuxième, c'est les valorisations du marché indien. Le marché indien a enchaîné les très très belles années et aujourd'hui, on a des valorisations qui sont extrêmement élevées, notamment vis-à-vis du reste du complexe émergent. Et donc, on s'attend à une correction pour refléter ce rééquilibrage en termes de valorisation de l'Inde par rapport au reste des émergents. Et donc, ça justifie notre prudence actuellement. Et d'ailleurs, l'Inde fait un mauvais début d'année et donc on s'attend à ce que ça continue un peu mais on serait très content de racheter toutes nos entreprises qu'on aime là-bas un petit peu soldées d'ici quelques mois et donc on garde un œil dessus chez Carmignac.
Merci Axel. Louis-Charles, tu voulais rajouter quelque chose ?
C'est tout à fait partagé, effectivement. On parlait de valorisation, c'est un marché qui est cher, qui est structurellement cher, mais qui est effectivement d'autant plus cher, notamment avec ces fortes performances qu'on a pu avoir en 2022. peut-être par effet aussi de vases communicants, des investisseurs qui étaient déçus de la Chine, qui sont allés investir en Inde. Mais donc, on est assez peu à l'aise avec ces valorisations et on est également moins à l'aise avec le fait que ce soit un marché qui est relativement concentré. Et donc, on va préférer d'autres territoires d'investissement. De toute façon, l'investissement, c'est toujours un arbitrage de risque et où allouer le capital. Et c'est vrai qu'on préfère, ça ne veut pas dire que l'Inde n'a pas énormément de ressources, mais on préfère allouer notre capital ailleurs.
Très bien, merci à tous les deux. Antoine, une question pour toi. Il y a eu plusieurs questions d'ailleurs autour des SCPI et plus généralement de l'immobilier de bureau autour des sujets dont on a déjà entendu parler. Mais effectivement, c'est important de contextualiser, de se projeter sur 2023 autour des bureaux suite à ce qu'on a connu, le télétravail, le Covid, etc. Et puis, aux nouvelles normes environnementales, on parle de label ISR. Est-ce que, voilà, comment, selon Primonial, va évoluer l'immobilier de bureau? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Avec quels actifs il faut être plus prudent? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus?
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, nous, on a une conviction très forte chez Primonial REM sur l'immobilier de bureau, on va dire, type siège social des grands groupes. On est persuadé que la taille et que la centralité est vraiment le maître mot pour cet investissement, qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention la qualité des portefeuilles qu'il y a dans les SCPI. Comme je disais tout à l'heure, on a vécu 10-15 années où finalement une gestion modérément active suffisait à maintenir la valorisation des portefeuilles. Aujourd'hui, sur l'immobilier de bureau, on est vraiment à la croisée des chemins entre un immobilier de bureau type années 70-80, vieillissant, qui probablement ne trouvera plus de locataires ni d'acheteurs d'ici une dizaine d'années et qui aura des gros problèmes en termes de valorisation de son foncier, hein, ne serait-ce qu'au regard des nouvelles normes environnementales. Donc, on aura cette partie-là qui va véritablement créer des opportunités pour des investisseurs un peu opportuniste et potentiellement créer aussi un peu de perte sur certains véhicules. Et de l'autre côté, l'immobilier de bureau, on va dire, attractif, qui selon nous est l'immobilier de bureau flexible, modulable, un immobilier de bureau qui permet finalement le partage d'informations, les réunions, etc. C'est tout ce qui est né, en tout cas qui s'est accéléré depuis la fin du confinement. On a découvert qu'il fallait aujourd'hui attirer les salariés au bureau. On a sur les grandes entreprises, maintenant il n'est pas rare de traiter les salariés quand ils arrivent au bureau comme des guests, comme s'ils étaient à l'hôtel. Donc on a étendu la conciergerie pour véritablement que les gens soient ravis de venir au bureau et de ne pas rester en télétravail. C'est très prégnant, par exemple, sur des sociétés comme les cabinets d'audit, comme les sociétés de conseil, même comme certaines banques d'affaires, où avant, il suffisait d'avoir une adresse parisienne et un gros chèque, ça suffisait. Aujourd'hui, pas du tout. Il faut attirer les talents et le bureau devient une façon d'attirer les talents. Avant, c'était une façon d'attirer les clients. Maintenant, c'est une façon d'attirer les salariés. C'est quand même assez particulier pour des gens qui ont un peu de cheveux blancs, mais voilà, il faut s'y faire et donc il faut s'y faire de façon assez rapide. Et c'est cette typologie-là de bureau qui va tirer son épingle du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces critères dont on parlait tout à l'heure, des critères ESG, donc ça va au-delà de l'environnement, hein, c'est tous ces critères extra-financiers qui avant constituaient la cerise sur le gâteau, mais bon, qu'on regardait un petit peu loin. Aujourd'hui, ça devient véritablement clé parce que c'est tous ces critères-là qui sont en dehors du simple rendement qui vont faire la qualité des actifs. Est-ce qu'ils sont centraux? Est-ce qu'ils sont flexibles? Est-ce qu'ils sont intégrés dans une ville? Est-ce qu'ils sont sûrs d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue physique, etc. Ça, aujourd'hui, ça devient absolument clé. Et donc, on reboucle avec la thématique environnementale. L'immobilier, c'est 40% de la consommation mondiale d'énergie, c'est 30% des émissions de carbone. Donc, en gros, si on n'agit pas sur l'immobilier, bon, ça ne sert pas à grand-chose de mettre des pailles en carton et d'utiliser un vélo. Il faut agir là où ça a un sens. Et là, sur l'immobilier, ça a un sens. Sur l'immobilier de bureau, c'est 80% de l'immobilier tertiaire qui est échangé. Donc, agir sur l'immobilier de bureau, c'est évidemment essentiel. La labellisation des fonds, c'est une partie de la réponse, mais c'est une partie seulement. Parce que la labellisation des fonds immobiliers, ça donne une sorte de cadre. Donc, un fonds qui est labellisé ISR, un cadre de suivi de toutes ces problématiques, s'engage à communiquer sur l'atteinte de ses objectifs, sur ses progrès, etc. Donc, c'est une première étape qui est intéressante. Il faut aller, bien sûr, beaucoup plus loin et communiquer sur la performance de chacun de ces actifs et sur la performance, évidemment, des actifs dans le cadre de la trajectoire carbone des accords de Paris. C'est ça, le gros du sujet. Et c'est à mon avis là-dessus que la profession va devoir aller dans les années qui viennent.
Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Je vois que l'heure tourne, je vais simplement poser une dernière question. Je ne pourrai pas relayer toutes les questions. Déjà, je remercie une nouvelle fois tous les participants pour toutes ces questions. On va tâcher d'y répondre de manière individualisée. Dernière question qui concerne le rebond sur les marchés qu'on a constaté depuis le début de l'année, là sur le mois de janvier. En particulier, c'était noté sur le CAC 40 tiré par le secteur du luxe. Je ne sais pas si vous pouvez apporter un éclairage. Voilà, la personne demande si c'est, est-ce que ça rebondit trop vite, est-ce que c'est trop... voilà, on a entendu les termes de prudence, notamment de votre part. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce début d'année? On a une fois de plus rencontré une année 2022 compliquée, chahutée, un début d'année sur les marchés, à l'inverse, plutôt euphorique. Voilà, si vous avez un mot à dire dessus.
Si, très rapidement, justement, ça nous incite peut-être d'autant plus à une certaine prudence. C'est très bien, cette performance des marchés sur le mois de janvier. On peut peut-être penser qu'une partie de la performance de l'année est faite, et ça nous incite, voilà, à un peu plus de prudence. Ce qui n'empêche pas, évidemment, et c'est pour ça qu'on avait des convictions à moyen, long terme, qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire, mais à très court terme, enfin, en tout cas pour JP Morgan Asset Management, assez prudent avec des stratégies non directionnelles, notamment via des long shorts ou des stratégies un peu alternatives, mais éviter d'avoir une exposition trop forte au marché sur ce premier semestre. Même si, encore une fois, on s'attend pas à avoir une crise telle qu'on a pu la connaître, par exemple en 2008, absolument pas. Mais voilà, un peu de prudence à court terme et beaucoup de conviction à moyen terme évidemment et long terme évidemment.
Parfait, merci Axel.
Oui, bah on partage cette vue. Hein. Je pense que tout le monde avait besoin d'un petit peu d'optimisme pour commencer et affronter ce long mois de janvier. Et donc, on a eu ce fort rebond. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est nous, on pense que voilà, le marché aujourd'hui anticipe un peu un environnement conte de fées. On va avoir un atterrissage parfait à la cible d'inflation, tout en n'ayant aucune conséquence sur la croissance et donc des banques centrales qui réussissent. Si c'est le cas, tant mieux pour nous tous. Aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a, ça nous paraît un petit peu ambitieux. Et donc prudence, diversification. Ce qu'on voit, c'est que ce qui a énormément rebondi, c'est les perdants de l'an dernier. Hein. On a une vraie inversion, aussi bien en termes de secteur, mais aussi de zone géographique, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays émergents. On voit que voilà, il y avait des besoins de rebond. Tout va sûrement se calmer à un moment, donc prudence, diversification, sélectivité.
Je crois que c'est le mot de la fin, Axel. C'était les termes que j'avais prévu d'employer, mais tu m'as avancé. C'est ce qu'il faut retenir, donc je ne dirai pas un mot de plus. Merci une fois de plus à tous les trois, c'était très éclairant, je dirais même passionnant, et merci à tous nos participants qui étaient présents jusqu'au bout et qui ont posé de nombreuses questions. Ce que je voulais simplement dire, vous trouverez le replay très vite, on va vous l'envoyer, évidemment, n'hésitez pas à le voir, à le visionner, à le partager à votre entourage, s'il y a certaines personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon mois de février, aussi bon que le mois de janvier, et puis voilà, une année 2023 qui, j'espère, même sous le signe de la prudence, se déroulera sous les meilleurs auspices à partir du moment où on diversifie et où on est vigilant et sélectif. Voilà, merci et à très bientôt.
Merci à tous.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.